Donc, merci. Donc, ça fait quelques mois maintenant que nous étudions dans cette épître des Colossiens et nous sommes arrivés à la partie qui concerne la vie familiale. Nous avons parlé des femmes, nous sommes maintenant en train de parler des maris et leurs devoirs envers leurs femmes. Et nous prenons encore, comme la semaine passée, juste le verset 19. Ce n'est pas habituel que nous prenions un seul verset, mais ce verset est très dense. Et nous allons lire ce verset et utiliser un passage parallèle en Éphésiens 15 pour comprendre ce qui est très dit de manière très succincte ici en verset 19. Le Seigneur nous dit à travers l'apôtre Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Et ce commandement, nous voyons plus développé dans l'épître aux Éphésiens que nous allons regarder maintenant. Paul est avec Épaphras, le pasteur de Colosse. Il n'a pas besoin de tout dire dans cette épître qu'il renvoie avec Épaphras parce qu'Épaphras peut leur enseigner lui-même. Mais pour les Éphésiens, il ne va pas les voir et il envoie en même temps depuis sa prison l'épître aux Colossiens, l'épître aux Éphésiens et l'épître à Philémon. Donc aux Éphésiens, il parle en plus de détails puisqu'il ne va pas les voir, et Paphras ne va pas les voir. Il entre en matière avec plus de détails. Et donc nous lisons dans ce chapitre 5, à partir du verset 25, ces paroles qui commencent de la même manière exactement. Marie, aimez chacun votre femme. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, une allusion probablement à la conversion et au baptême, donc la parole de l'Évangile qui nous amène à la foi et l'eau du baptême qui représente ce nettoyage intérieur que l'Esprit de Dieu opère en nous au moment de la conversion. Peut-être Paul en parle parce que dans les mariages juifs et dans les mariages grecs dans l'Antiquité, avant le jour du mariage, la femme prenait toujours un bain spécial. La fiancée prenait un bain juste avant d'aller pour être présentée à son époux. Et peut-être il pense à cela, il compare, mais c'est l'époux qui lave l'épouse dans ce cas. Donc, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette église qui est son épouse, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Formidable œuvre de Christ dans nos vies, n'est-ce pas? Que nous puissions être présentés à Dieu comme cela. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Ou dans d'autres versets, il la nourrit, elle la chérit, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, pas simplement par rapport à l'homme et la femme. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et il faut que nous prenions un petit moment pour réviser la semaine passée. Et pour vous qui venez pour la première fois, c'est peut-être salutaire. Dans le mariage, les maris doivent donner leur attention le plus concentrée et la plus soutenue au fait d'aimer. D'aimer leur femme avec un amour tout à fait spéciale. Spéciale parce que nous avons vu qu'il y a grosso modo trois sortes d'amour dont on parle dans l'Antiquité et même aujourd'hui. Et l'amour du mari dans ce passage est l'amour agapé. C'est le mot agapa, le verbe agapao. Et c'est un amour spécial parce que cet amour n'est pas comme les sortes d'amour naturels que nous tous ici, que nous pouvons avoir sans être convertis, sans être chrétien. Voilà. Par exemple, il y a, je dirais juste ceci, ces sortes d'amour naturels que nous pouvons tous avoir sans la conversion à Christ sont des amours qui, sans agapé, pour les modifier, ces amours naturels sont vite des formes d'égoïsme. Je vais vous montrer pourquoi je dis cela. On chante l'amour, on célèbre l'amour, mais ces sortes d'amour deviennent vite des formes d'égoïsme sans l'amour agapé. Et ces amours naturels sont fragiles. Et voilà pourquoi nous prenons l'amour éros. Nous avons vu la semaine passée que l'amour éros n'est pas simplement l'amour sexuel, comme on aurait peut-être l'impression par le mot éros, érotique, etc. Mais c'est un amour d'attirance. C'est l'amour de désir. Je te veux parce que tu es belle, intelligente, intéressante. C'est-à-dire, je t'aime avec l'amour éros. C'est un amour de désir. OK? D'attirance, d'attraction. Et c'est tout à fait valide. Et il faut cet amour dans le mariage. Sinon, c'est pas complet. Il n'y a jamais d'étincelle qui commence l'attraction l'un envers l'autre. Mais tout seul, vous pouvez bien comprendre que cet amour est vraiment fragile, puisque cet amour est dépendante de vos qualités attractives. Je te veux parce que tu es attirante. Alors je t'épouse, et puis je trouve que non seulement tu es belle, intelligente et intéressante, mais orgueilleuse parfois, égoïste parfois, un peu exigeante et parfois impatiente. Qu'est-ce qui arrive à Eros? Je ne suis pas autant attiré qu'avant. N'est-ce pas? Eros commence à dissiper. Êtes-vous jamais demandé pourquoi ces mecs, excusez-moi, ces hommes, qui sont mariés aux femmes les plus belles d'Hollywood, finissent presque toujours par les quitter pour une autre. C'est parce que cette attirance d'Eros, une fois qu'on découvre que tout n'est pas attractif chez toi, cet amour est très fragile et se dissipe quand il est tout seul. N'est-ce pas? Je vous dis une bêtise? Non. C'est la même chose avec Philos, l'amour de compagnie. Je t'aime dans le sens que j'aime être avec toi. Nous avons une bonne compagnie, une bonne amitié. Mais la même chose se passe quand on découvre par cette proximité qu'il y a des choses qui... Ça fait pas toujours de la bonne compagnie d'être avec toi. N'est-ce pas? Et donc, sans l'amour agapé, ces deux amours sont fragiles et voilà l'explication de la situation que nous avons aujourd'hui en France et partout, des mariages qui ne tiennent pas. Notre fille, quand elle était en CM2, 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 c'est quel âge ça? 10 ans? Dernier jour de l'année scolaire. Le maître, c'est le principal, le directeur de l'école. Je ne sais pas pourquoi cela a eu lieu, mais elle rentre et notre petite Michelle nous dit, ben, le maître nous a parlé, on a commencé à parler de nos familles aujourd'hui. Et il nous a demandé combien de nos parents étaient encore ensemble. Et papa, maman, vous savez que On était 26 dans la classe et il n'y avait que 5 qui avaient leurs parents toujours ensemble. Eros et Philos sont fragiles, sans agapé. Ben, agapé, donc Marie, aimez chacun votre femme avec l'agapé, parce qu'il est spécial, il est différent. Ce n'est pas je t'aime en raison de ce que tu m'apportes, de ce que tu peux être pour moi. Je ne t'aime pas simplement à cause de tes qualités qui me plaisent. Ce n'est pas parce que par les moyens dont tu m'attires que je t'aime. Je t'aime toi, point. Je vais le redire. Je ne l'ai pas bien dit. Je ne t'aime pas simplement pour ce que tu m'apportes. Vous voyez le problème? Pour ce qu'il y a en toi qui me plaît. Je t'aime toi. Donc l'amour agapé n'est pas au sujet de ce que les hommes, les maris, n'est pas au sujet de ce que votre femme peut vous apporter. Il y a la place pour ça dans le mariage, ok? Eros et Philos sont là. Mais il y a cet autre amour, et ce n'est pas au sujet de ce qu'elle peut vous apporter, mais ce que vous pouvez lui donner. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. L'amour agapé est un miracle. C'est une chose inouïe, c'est pas humain, c'est divin. Et c'est une force, un principe, un élan dans le cœur de Dieu qui a envie de bénir l'autre pour qu'il soit béni. C'est comme une source, une fontaine qui est tellement pleine que ça déborde. Ça déborde, ça donne, n'est-ce pas? Et donc, cet amour qui veut que l'autre soit béni, c'est de ça que l'apôtre parle en commandant les futurs maris comme Epaphras, ou les maris présents comme Timon, ou vous autres, ou moi. Donc, nous avons vu la semaine passée que cet amour. C'est pas je t'aime si tu m'aimes, mais l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu a été manifesté envers nous, 1 Jean 4, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu et qu'il a répondu en nous aimant, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et nous avons vu trois choses au sujet de cet amour qui concerne chaque mari ici ou chaque futur mari. L'amour agapé est un amour qui s'identifie avec sa femme. Et c'est le propos de Paul que le mari aime sa femme comme son corps. Alors mon corps, je m'identifie avec mon corps. Je dis que c'est moi, mon corps. Si j'ai mal au pied, je ne dis pas, oh, ça c'est tant pis pour le pied. Je dis, ah, j'ai mal, c'est moi qui ai mal. Et donc, l'amour du mari envers sa femme, c'est un amour par lequel le mari dit, son bonheur, c'est mon bonheur. Je ne peux pas avoir de bonheur si elle n'est pas heureuse. C'est, je suis autant lié à elle. Elle est autant un avec moi. Et donc, un amour qui s'identifie. Deuxièmement, un amour qui prend l'initiative. Donc, c'est Dieu qui vient le premier envers nous pour se donner à nous. Et troisièmement, oui, nous avons dit que c'est un amour qui se sacrifie. Et nous avons dit qu'il y a un test là pour nous les maris, n'est-ce pas? Le mari, il peut être facilement amené à rentrer à la maison, poser ses pieds sur la table, s'asseoir sur le canapé. Chérie, tu peux m'amener quelques chips, n'est-ce pas? Ou le monsieur peut faire tout ce qu'il veut, ses hobbies, ses passe-temps, et penser beaucoup à lui-même. Mais le test de l'amour, c'est combien de choses est-ce que je perds pour que ma femme soit bénie et heureuse. Le sacrifice, c'est lorsque j'expérimente de la perte ou de la douleur, je dis non à mon passe-temps. Je dis non à ma préférence de musique dans la maison ce soir. Je dis non à plein de petites choses parce que je veux dire oui à elle. Et donc ça, c'est vraiment un amour absolument nécessaire. Et ma femme et votre femme doivent pouvoir dire, mon mari se sacrifie souvent pour moi. Je sais qu'il m'aime. Parce que je l'ai vu dire non à des choses que je savais qu'il voulait ça. Et il a dit non pour moi. Maintenant, nous avons dit aussi que la semaine passée, et on va finir cette introduction, que cet amour agapé, les maris, vous ne pouvez l'apprendre que par Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dit, Marie, aimez chacun votre femme. Et puis un long passage en Éphésiens 5, comme Christ a aimé l'Église et il a fait ceci, il a fait cela, et c'est comme ça qu'il a aimé l'Église. Parce que Dieu veut vous dire, les hommes, vous voulez aimer votre femme, regardez Jésus-Christ, aimez l'Église et vous allez voir comment le faire. Et là seulement, vous allez voir parfaitement comment vous pouvez le faire. En voyant Christ, comment il vient, il s'abaisse, il se donne, il se livre, je comprends pour la première fois, mince, il y a une autre forme d'amour que j'avais jamais pensé. Et en me laissant aimer par Jésus-Christ de cette manière, je comprends le défi que j'ai, la manière dont je dois commencer à essayer d'aimer ma femme de plus en plus. Et quel défi! Quelqu'un a demandé la semaine passée, après le culte, Pasteur, est-ce que tu veux dire qu'il n'y a aucun bon mariage chrétien? Pas du tout. La Bible enseigne la doctrine de la grâce commune. Les théologiens parlent du fait que Dieu est à l'œuvre dans la vie de tout être humain. Pas de manière salvatrice, peut-être, mais il nous empêche de devenir aussi mauvais que possible et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes et heureusement il est à l'œuvre en donnant sa grâce commune pour que la race humaine n'aille pas complètement à la dérive. Il y a des bons mariages non chrétiens, mais pour trouver un mariage où le mari, puisque je parle de vous mari, a une habitude de se repentir devant sa femme et de dire souvent, c'était ma faute. J'étais mauvais envers toi dans cette parole, dans cette attitude. Je n'ai aucune excuse. Pardonne-moi tout simplement. Ou ça, c'est une habitude dans la relation où il y a, quand la femme agit mal, le monsieur pardonne et embrasse et de plus en plus profondément il se sacrifie. On voit ça surtout dans les mariages où Christ est l'exemple, Christ est la puissance et où le mariage est vraiment façonné, forgé par la présence et l'enseignement de Christ. Avant que le christianisme arrive, la place de la femme, je n'aime même pas décrire. Ma femme est allée au Japon dans les années 80, elle a passé 7 semaines là, et la femme ne pouvait même pas manger avec le mari au dîner. Dans les années 80, dans la culture japonaise bouddhiste. J'ai passé 6 ans en Afrique, j'ai vu la même chose. Là où l'évangile n'était pas présent dans une famille africaine, la femme avait une place de servante, plus ou moins, souvent. Et c'est seulement par l'évangile que la femme est haussée et la noblesse qui lui appartient lui est remise. Ok, maintenant, aujourd'hui, nous allons parler d'une seule chose avec le temps qui nous reste, et c'est simplement que l'amour agapé est un amour qui prend l'initiative, oui, un amour qui s'identifie, un amour qui se sacrifie, mais aussi un amour qui embellit. Et par cela, je veux dire que il y a une chose curieuse dans l'amour agapé d'un homme pour sa femme, c'est que cet amour la rend plus belle qu'elle ne l'était. Nous allons donc lire le passage. Vous allez voir que c'est ce que Paul veut vraiment nous montrer dans l'effet de l'amour de Christ sur son épouse, l'Église. Marie, verset 25, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. L'amour de Jésus-Christ pour l'Église chrétienne la rend splendidement belle sur le plan moral. Change vraiment les hommes et les femmes que nous sommes, n'est-ce pas? Cet amour est un amour transformateur qui embellit. Maintenant, je me sens extrêmement convaincu de mon péché en tant que mari en parlant de ce sujet, parce que je sais que quand une femme est aimée vraiment pendant des décennies, avec l'amour agapé par un mari, on le voit, on voit sur cette femme qu'elle a été une femme aimée. On voit par une joie, une intérieur, un bien-être intérieur de cette femme qu'elle a vécu avec un homme qui s'est sacrifié pour elle. Et je crois que chaque mari voudrait que ce soit beaucoup plus le cas dans son couple. Nous avons juste à nous demander, mais comment est-ce qu'un homme aime sa femme de manière à la rendre plus belle? Et je ne parle pas de l'apparence extérieure, je parle de la vraie beauté. Et il nous semble que le texte biblique nous donne trois idées. Que nous aimons notre femme en la graciant, en la nourrissant et en la chérissant. D'abord, pour ta femme, les hommes, les maris, gracie-la, gracie ta femme. Ça veut dire tout simplement, vis avec une femme de manière à lui communiquer la miséricorde, la patience et la grâce. Nous voyons cela dans le fait que le texte nous dit que Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Alors, s'il l'a purifiée, ça veut dire qu'elle était quoi avant? Ben, impure. Elle était sale. Et donc, Christ a aimé l'Église dans son imperfection, malgré son imperfection. Et ça veut dire c'est un amour qui gracie, qui l'accepte malgré ses fautes, comme il veut bien qu'elle accepte son mari, malgré ses fautes. Mais ça nous renvoie à un autre texte en Colossiens que je vous recite en Colossiens 3, 19, qui dit: Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Maintenant, apparemment, Paul veut nous enseigner par contrario, en nous donnant le contraste de l'amour agapé, il veut nous montrer ce que c'est que l'agapé. C'est le contraire du fait de s'aigrir, pardon, c'est ça s'aigrir contre sa femme. Ce mot parle de la dureté, n'est-ce pas? De cette attitude où un mari peut facilement devenir amer envers sa femme. Subtilement, même inconsciemment, vivre avec un courant de frustration, d'irritation et de colère envers sa femme. Parce qu'elle n'est pas tout ce qu'il demande ou exige. Et cela est tellement loin de l'amour. Car l'amour fait exactement le contraire. Je vais vous parler de deux sortes de dureté que je vois en moi et que je vois dans d'autres maris. Et puis nous allons essayer de finir de parler de cet amour qui embellit. La première sorte de dureté que je vois parfois dans les maris, c'est une dureté qui ne vient pas de quelque chose d'à travers chez sa femme. OK? Elle n'a rien fait de mauvais, mais il est dur avec elle. Pourquoi? C'est une sorte de dureté qui vient plutôt simplement de son égoïsme et du fait qu'il est homme. C'est l'égoïsme, mais de forme masculine. Comme il est le chef du couple, les chefs ont leur façon d'être égoïstes, n'est-ce pas? Et c'est souvent par la dureté, d'être dur avec la personne qui est sous mon autorité, dans un sens. Une fois, nous allions en voiture de Chalon-sur-Saône à Lausanne pour visiter un ami pasteur, Olivier Favre, et en route, on s'est perdu. On devait là être là à certaines heures, et il devenait évident qu'on allait être en retard, et j'ai commencé à me stresser parce que je suis orgueilleux. Et parce que je n'aime pas être en retard, toutes sortes de... Je ne pouvais pas lâcher ça. Non, il faut que nous soyons là. Et qu'est-ce qui se passe? Ma femme qui a la carte et qui nous dirige, vous comprenez ce qui se passe? Vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Nous avons des GPS maintenant. Ça sauve beaucoup de mariages. Hein? Mais je vous assure que... 2 secondes avant une rue, je voulais qu'elle soit capable de me dire si je devais tourner là ou non. Regarde sur la carte, pourquoi tu m'as pas dit? Chérie, tu m'as donné 2 secondes. 2 secondes! Et voilà, là c'est la dureté. Là c'est la dureté, c'est elle qui est blâmée. Et maintenant on continue le chemin, mais elle est très silencieuse dans la voiture. Et lorsque nous arrivons au parking de l'appartement, la pire des choses qui puissent arriver devant mes yeux, le pasteur nous a vu venir, il est déjà sur le parking. J'ouvre ma porte, je dis, Olivier, excuse-moi un moment, je dois demander pardon à ma femme d'abord. Je vais à la porte. Et je demande pardon à ma femme. Mais voilà, n'est-ce pas, cette dureté que nous pouvons avoir. Qui est inexplicable, inexcusable. Nous pouvons le voir par des hommes qui parfois dictent à leurs femmes, qui parlent avec des paroles dures, qui ordonnent à leurs femmes. Et tout cela, c'est le contraire de l'amour qui embellit. Mais il y a une autre sorte de dureté, d'amertume chez le mari. Je ne sais pas si Paul n'a pas en tête plus cette sorte d'amertume ou de dureté. C'est une dureté qui est connectée, qui est liée à des imperfections chez sa femme. Parce qu'aucune femme, quand même, n'est parfaite. Une femme peut être impatiente, exigeante, colérique, égoïste, comme les hommes. Oui, c'est possible, je l'ai vu une ou deux fois. Et donc, parfois, ce qu'on voit, c'est cette configuration qui se développe au fil des années. Une femme, de plus en plus, passe son temps intérieurement, dans le discours intérieur, à critiquer son mari pour le fait qu'il est un mauvais leader du couple, un mauvais compagnon, qu'il manque d'amour, qu'il la néglige. Et il y a ce courant de discours intérieur, et parfois ça sort par des paroles. Donc c'est là son adresse intérieure. Elle habite avec cette irritation envers lui en tant que mari. Le mari, bien sûr, il le sait. Il le sait. Il le sent. Et en tant que mari, maintenant, il devient amer. Ma femme qui me dit toujours ce qu'il faut faire, qui me critique toujours, elle ne fait que critiquer. Et maintenant, il devient froid envers elle. Il devient dur envers elle comme seulement un homme peut le faire. D'une façon ou d'une autre. Parfois, c'est en étant simplement difficile avec elle. Parfois, c'est en se retirant. En allant dans ses passe-temps, en passant sa vie ailleurs. Et pas vraiment avec elle. Mais tout ça, c'est une façon d'être amer envers elle, d'être dur avec elle, de ne pas l'embellir. Mais cette dureté, c'est surtout ceci. Devant les péchés de ma femme, je peux être tenté de la juger, de me retirer et de dire en quelque sorte, je te laisse à te changer. Et quand tu changes, je t'aimerai. Je me rapprocherai, je te donnerai des câlins, je t'embrasserai, je t'aimerai, je te nourrirai, je te chérirai quand tu n'es plus comme ça. N'est-ce pas? Et cela, ce n'est pas un amour agapé, c'est un amour conditionnel, n'est-ce pas? Et dans cet amour, je deviens non pas Monsieur Grâce, mais Monsieur Loi. Vous savez que la loi exige sans aider à accomplir. La loi, quand tu ne dis pas ce qu'elle fait, Monsieur Loi se tient à l'écart et il sanctionne. Et il est dur, n'est-ce pas? Et le mari peut être comme ça. Il peut maintenant développer son discours intérieur et se retirer de sa femme et dire je suis avec toi dans tout ce qu'on fait de bien, mais je ne suis pas avec toi dans ce caractère-là que tu as. Je ne suis pas là pour toi dans cela. Alors que l'agapé dit, je suis là pour toi justement à cause de cette imperfection, ce besoin, ce mauvais caractère. C'est là que tu as le plus besoin de moi. Christ est venu non pas parce que nous étions parfaits. Il est venu parce que nous étions pécheurs. C'est le péché qui attire l'agapé. Et lorsque nous aimons chacun notre femme avec un amour agapé, on ne se retire pas pour bouder lorsqu'elle a été un peu maladroite ou mauvaise avec nous. On va vers elle en gracie. On parle. On peut reprendre, mais dans un amour et dans une grâce et dans une miséricorde qui ouvre le cœur de notre femme, qui est une clé qui ouvre son cœur à nous. Le problème, c'est que quand ma femme pèche contre moi, parfois je ne veux pas prendre le fardeau de son péché sur moi, comme Christ est venu prendre nos péchés sur lui. Je ne veux pas dire, c'est je prendrai ça, c'est mon affaire. Je vais régler ça. Et vous savez pourquoi? Le problème, c'est que je crois un mensonge, et ce mensonge dit que le plus grand problème, c'est la douleur. La douleur qu'elle me cause en me critiquant ou en me jugeant ou quoi que ce soit. Mais la réalisation fait tilt. Le problème n'est pas la douleur, le problème est le péché. Et donc, je n'ai pas besoin de me retirer pour échapper à cette douleur d'une femme imparfaite. J'ai besoin d'embrasser la douleur comme Christ a embrassé la croix. Pour mon Sauveur, le problème n'était pas la douleur. Il est venu pour embrasser la douleur. Il est venu pour avoir mal. Parce que le problème n'était pas le mal. Le problème était la cause du mal, le péché, qu'il fallait à tout prix enlever. Et lorsque nous comprenons ça, et nous avons mal parce que notre conjointe ou notre conjoint nous a blessés, nous devons nous dire, le problème n'est pas la blessure. On peut embrasser la blessure. Le problème et le péché, le sien et le mien qui fait que je ne veux pas aller vers elle en ce moment. C'est ça qui va faire exploser notre mariage. Son péché qui m'a blessé et mon péché qui m'amène à ne pas vouloir l'embrasser telle qu'elle est. Et la seule manière de le faire, c'est la croix. C'est d'aller à la croix nous-mêmes, d'embrasser cette douleur, d'embrasser notre femme au milieu de notre douleur, de l'aimer, de la gracier, d'être patiente comme nous voulons que le Seigneur le soit avec nous. Donc, je veux vous encourager, je vais m'arrêter là, les maris, à ne pas vous préoccuper de des imperfections de votre femme, parce que vous en avez plein vous-même, n'est-ce pas? Mais de vous préoccuper de votre cœur. Le problème dans votre mariage, ce n'est pas surtout ces perfections, mais c'est ce cœur qui s'aigrit, n'est-ce pas? Parce que ces imperfections, vous pouvez les changer, vous pouvez embellir cette femme par cet amour de grâce et de pardon et de patience et de miséricorde. Ça, c'est un amour qui change quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, messieurs, c'est est-ce que vous allez aimer avec l'amour qui transforme? Est-ce que vous allez être comme Christ? Je ne vais même pas parler de nourrir et de chérir parce que je suis allé trop longtemps, mais afin d'embellir notre femme, on la gracie, on la nourrit sur le plan pratique. On fait attention à ses besoins physiques quand elle est fatiguée, quand elle a des besoins pratiques. Et on la chérit sur le plan affectif. On la loue. On lui montre qu'elle est précieuse. On la chérit, on la prend comme quelque chose de cher. Et de toutes ces façons, elle se sent vachement aimée. Et elle est embellie. Quelle tâche, quel défi le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, en tant que mari. Et nous voulons chacun de nous être un mari qui ressemble au Sauveur et qui embellit notre femme. Nous allons nous tourner vers la scène aujourd'hui pour terminer notre culte. Je crois que ce serait bien qu'on ait juste un moment de prière collective, deux ou trois, de préférence les hommes, comme vous avez été visés aujourd'hui. Vous pouvez vous exprimer si vous voulez, mais pas seulement les hommes. Que deux ou trois personnes nous aident à aller auprès de Dieu. Nous avons des affaires à faire avec le...